Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Khalid Massoud, un Britannique de 52 ans, est l'auteur de l'attentat de Londres. La police britannique a révélé son identité aujourd'hui. L'attaque qui a fait 3 morts a été revendiquée par l'État islamique. On fait le point avec Antoine Gignot dans un instant. Une voiture fonce sur la foule à Anvers. Pas de blessés, le conducteur a été arrêté. Il avait des armes dans son coffre, mais la police belge se refuse pour l'instant à parler d'une tentative d'attentat. Les précisions de Pierre Bénazé. La campagne présidentielle, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian votera Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian peut être le ministre le plus populaire du gouvernement Hollande. L'analyse de Stéphane Robert dans ce journal. Marine Le Pen en visite à Moscou demain, alors que la Russie de Poutine divise les candidats à l'Élysée. Nous en parlerons avec notre invité, le journaliste Renaud Girard, spécialiste des questions internationales. Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Londres ce soir à Trafalgar Square, lieu emblématique de la capitale britannique. Le maire de la ville, Sadiq Khan, a pris la parole. Les Londoniens ne se laisseront pas intimider par le terrorisme. Les esprits dérangés et diaboliques qui essayent de détruire notre mode de vie n'y parviendront jamais, a lancé Sadiq Khan à la foule. Le dernier bilan de l'attentat est de 3 morts, une Anglaise et un Américain fauchés sur le pont de Westminster et le policier poignardé devant le Parlement. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Quant au djihadiste qui a été abattu hier après l'attaque, il a été identifié. Les précisions de notre correspondant à Londres, Antoine Gignot.
Khalid Massoud, 52 ans, était né dans le Kent, mais il vivait dans les Midlands. Il était connu des services de police pour des agressions, coups et blessures, détention d'armes et troubles à l'ordre public. Sa première condamnation pour destruction de biens privés date de 1983. La dernière, de 2003, il avait été arrêté en possession d'une arme blanche, en l'occurrence un couteau. Il n'avait pas été poursuivi jusqu'ici pour des actes terroristes, mais le MI5, dans le cadre d'une enquête, s'était intéressé à lui il y a quelques années. Les services secrets le considéraient comme un personnage annexe, pas forcément dangereux. En parallèle, 8 personnes ont été arrêtées aujourd'hui. Les policiers ont perquisitionné à 6 adresses différentes, essentiellement à Londres et à Birmingham, dans le quartier d'Egbaston, au sud-ouest de la ville. C'est peut-être là qu'habitait l'auteur des attaques. La voiture gris métallisée qui a été retrouvée près de Westminster a été louée dans la ville de Solihull, à quelques kilomètres de Birmingham. Ce soir, les policiers demandent aux Britanniques qui ont des informations concernant le terroriste d'appeler un numéro spécial pour tenter de reconstituer le scénario des attaques.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Enfin, devant la Chambre des communes à Westminster, Theresa May a de nouveau affiché sa détermination. « Nous n'avons pas peur, la démocratie triomphera toujours », a dit la première ministre britannique. C'est dans ce contexte de menaces terroristes accrues qu'est survenu l'incident d'Anvers cet après-midi en Belgique. Un homme qui fonce au volant de sa voiture dans le centre-ville. Les passants sont obligés de s'écarter. Pas de blessés, l'individu de nationalité tunisienne a été arrêté. Les policiers ont retrouvé des armes dans le coffre de son véhicule. Pierre Bénazé.
Il était 10h45 lorsqu'un break Citroën rouge immatriculé en France s'est engagé à tombeau ouvert sur le Mer, la grande artère commerciale du centre d'Anvers. Il allait entre 80 et 100 km à l'heure dans cette rue piétonne et de nombreux chalands ont dû faire un saut de côté pour l'éviter. Selon les témoins, il roulait au milieu de cette large rue, ce qui pourrait éventuellement signifier qu'il n'avait pas l'intention de foncer sur la foule. Une patrouille de l'armée belge, déployée dans le cadre des opérations de sécurisation en place depuis les attentats de Paris, a bien tenté de l'arrêter, mais il a grillé un feu rouge et a foncé vers les quais de Lescot, où la police fédérale l'a ensuite intercepté. Le conducteur est un certain Mohamed R, âgé de 40 ans, d'origine tunisienne, mais résidant en France, à Lens. Il était fortement alcoolisé lors de son arrestation, et dans sa voiture, les policiers ont entre autres trouvé des armes blanches et un fusil à pompe. Parmi les hypothèses envisagées, il pourrait s'agir d'un homme qui a voulu tenter de se soustraire à un contrôle de police. Mais la piste terroriste n'a pas été formellement exclue. C'est d'ailleurs le parquet fédéral, compétent pour ces questions, qui a été saisi. Et par ailleurs, la police et l'armée ont immédiatement renforcé la surveillance des lieux publics anversois.
Pierre Bénazé, l'un de nos correspondants en Belgique. Aux États-Unis, la Chambre des représentants ne se prononcera pas ce soir sur le projet de loi visant à remplacer l'Obamacare, l'assurance santé mise en place par l'ancien président américain. Le vote a été reporté à demain, normalement, car le sujet divise les républicains et le président Trump n'a pas pour l'instant réussi à trouver un compromis pour faire adopter son texte. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
Donald Trump n'aura pas le symbole qu'il voulait, le vote de sa réforme de la santé, 7 ans jour pour jour, après que la Chambre des représentants a adopté l'Obamacare. La décision de ne pas voter ce soir entérine un échec et elle traduit l'impossibilité à cette heure-ci de trouver une majorité. Donald Trump a pourtant tout fait pour parvenir à un compromis. Les conservateurs ont été reçus une nouvelle fois dans la journée à la Maison-Blanche et le président américain a même invité ses électeurs à faire pression sur leurs élus pour soutenir ce projet de loi. C'est ça l'argument principal de la Maison-Blanche. Vous devez respecter la promesse de campagne, sinon vous ne serez pas réélu. Mais il se heurte à une double opposition, celle des plus intransigeants qui trouvent que la réforme laisse encore une trop grande place à l'État fédéral et celle des modérés qui, eux, mettent en avant les millions d'Américains qui risquent de perdre toute couverture médicale. La loi sera peut-être votée demain, mais dès le premier texte important, la majorité républicaine aura étalé toutes ses divisions.
Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis. Un Français a été enlevé ce matin au Tchad, près d'Abéché, dans l'est du pays. L'identité de cet homme, employé d'une compagnie minière, n'a pas été révélée. Il a été kidnappé par 2 hommes à moto. La France affirme tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération. Il n'y a ce soir aucune revendication pour cet enlèvement. La campagne présidentielle, c'est désormais une certitude. Jean-Yves Le Drian rejoint Emmanuel Macron. Le ministre de la Défense l'a annoncé aujourd'hui à des élus du Conseil régional de Bretagne qu'il préside. Et il s'en expliquera demain dans une interview au quotidien Ouest-France. Jean-Yves Le Drian a donc choisi le candidat En Marche plutôt que celui de son parti Benoît Hamon. Stéphane Robert, ce ralliement va accentuer les divisions au sein du camp socialiste.
Jean-Yves Le Drian qui s'en va chez Macron, ça c'est un vrai problème pour le candidat du Parti Socialiste. Et en même temps, ce n'est pas une surprise. Ça fait plusieurs semaines qu'on sait que Jean-Yves Le Drian prépare l'annonce de son soutien à l'ancien ministre de l'économie. Un certain nombre de députés bretons l'ont précédé et très récemment des très proches de Le Drian. Paul Molac, député de Pleuhermel, ou encore Marie-Anne Chapdelaine, députée de la ville de Rennes. Demain, ce sera donc le patron de la région qui va basculer, Jean-Yves Le Drian. Il est très solidement implanté en Bretagne, élu président de la région à 51% dans le cadre d'une triangulaire aux dernières élections. Le Drian, c'est aussi l'un des poids lourds du gouvernement de François Hollande, l'un des très rares ministres populaires de ce quinquennat, qui a fait ses preuves à l'international et qui a pleinement endossé son costume de ministre de la Défense, très populaire chez les militaires. Il apporterait donc à Emmanuel Macron cette caution-là qui lui manquait dans le domaine régalien et une certaine crédibilité à international. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, ce n'est pas tant le potentiel effet d'entraînement que pourrait susciter Jean-Yves Le Drian en faveur d'Emmanuel Macron, c'est plutôt le fait qu'il est un signe de ce qui est en train de se passer en Bretagne. Le signe que les Bretons s'apprêtent à voter massivement en faveur de Macron. C'est ce que semble dire notamment une enquête Cevipof réalisée par l'Institut Ipsos à la mi-mars pour France 3 Région. Dans cette enquête, Macron est à plus de 30% d'intention de vote, Marine Le Pen à moins de 20%. Ce que ça nous dit, c'est que si le vote Front National est en progression dans ces terres de l'Ouest, comme partout en France, il continue malgré tout à générer un très fort rejet au sein de la population. Et en Bretagne, le vote utile contre Marine Le Pen et donc en faveur du candidat le mieux placé pour lui faire barrage va fonctionner à plein. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour Benoît Hamon.
Stéphane Robert, merci. Jean-Yves Le Drian, qui est donc le 3e membre du gouvernement à rejoindre Emmanuel Macron. Il y a eu en début de semaine l'écologiste Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité. Et ce matin, c'est le radical de gauche Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, qui a annoncé son ralliement à Macron. Marine Le Pen, elle, est attendue demain à Moscou où elle doit rencontrer de hauts responsables parlementaires russes. À son agenda figure notamment un entretien avec le président de la Douma, Vyacheslav Volodine. Cette visite de Marine Le Pen intervient à un moment où la Russie de Poutine est devenue un thème important de la campagne présidentielle française. Il y aurait parmi les 11 candidats, les pro-russes comme Marine Le Pen, François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon et les autres. Invité de ce journal, le journaliste Renaud Girard, chroniqueur international au Figaro, spécialiste des questions diplomatiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise, Renaud Girard, que vous venez de publier un essai intitulé « Quelle diplomatie pour la France ?». Alors, première question, pourquoi la Russie devient-elle une question centrale dans la campagne présidentielle française ?
D'abord, la Russie n'a jamais été... On a une sorte d'inversion par rapport aux années 60, à la campagne de 1965, où les candidats avait fustigé l'atlantisme, n'est-ce pas, de certains autres candidats. Aujourd'hui, c'est la Russie, c'est la russophilie qui est accusée et qui est entrée dans le débat. Pourquoi la Russie est entrée dans le débat français ? Eh bien, parce que il y a eu plusieurs événements importants, les événements bien sûr d'Ukraine, Crimée, etc. Et il y a aussi les événements, les attaques islamistes en France, et certains hommes politiques français considèrent que seule la réponse de Vladimir Poutine, qui est assez intransigeant à l'égard des islamistes, est la bonne réponse.
Renaud Girard, c'est la personnalité de Poutine qui explique cette nouvelle influence russe sur la vie politique française ?
Oui, Poutine, c'est l'homme fort, Poutine, c'est le nationaliste, Poutine, c'est l'homme qui est très intransigeant avec les islamistes. Poutine, c'est l'homme qui soutient la dictature laïque bassiste de Syrie. C'est l'homme qui garde en fait ses alliances. Et cet exemple d'autorité, effectivement, séduit une partie des hommes politiques français et même, on peut dire, une partie de l'électorat français, comme il a séduit une partie du leadership républicain aux États-Unis d'Amérique.
C'est une figure de l'homme fort que l'on ne trouve plus aujourd'hui en Europe, d'où cette fascination pour le personnage de Poutine ?
Oui, c'est une figure de l'homme fort dont on comprend la politique, qui a redonné sa fierté à la Russie, qui n'accepte plus les compromissions, les concessions de l'époque Yeltsin. C'est aussi le fait que les guerres occidentales menées au nom des droits de l'homme ont souvent abouti à des chaos. C'est-à-dire que Poutine, enfin c'est en fait c'est même pas Poutine, c'est plutôt Medvedev. C'est-à-dire la Russie s'était abstenue sur l'opération occidentale en Libye, faite à l'initiative de Monsieur Sarkozy, et la catastrophe qu'a donnée aujourd'hui la Libye, l'ensemble du Sahel qui est déstabilisé, et notamment un vieil allié de la France, qui est la Tunisie, qui est très déstabilisée par ce qui se passe en Libye, il y a peut-être 30 000 djihadistes à ses frontières, eh bien, il y a eu une sorte d'inversion de tendance dans l'opinion française, où l'on réfute les opérations dites humanitaires, influencées par le néoconservatisme américain, pour un réalisme bismarckien plus classique, dans lequel s'inscrit Poutine, puisque Poutine n'est jamais favorable aux changements de régime, aux expéditions armées pour changer les régimes, comme l'Occident en a fait en Irak en 2003, a songé à en faire en 2013 en Syrie, avant que la Chambre des communes ne donne pas l'autorisation au gouvernement Cameron et que Barack Obama fasse marche arrière, mais le président Hollande voulait faire la guerre à la Syrie, et aussi expédition de Libye dont j'ai parlé en 2011, mais qui s'est révélée catastrophique.
Renaud Girard, est-ce que le Kremlin a aujourd'hui un favori dans la course à l'Elysée ?
Je crois que le Kremlin est assez prudent, parce qu'en fait, je veux dire, Poutine et son ministre Lavrov, ce sont des pragmatiques. Alors, il est tout à fait certain que, par exemple, M. Poutine aurait bien aimé voir François Fillon devenir président de la République française, dans la mesure où François Fillon n'a pas caché sa volonté de refaire de la diplomatie avec la Russie, pas caché la critique des sanctions qui ont été mises par le gouvernement Hollande à l'égard de la Russie, a appuyé François Fillon les votes de l'Assemblée nationale et du Sénat français pour supprimer ces sanctions commerciales à l'égard de la Russie. Donc je pense qu'effectivement, M. Poutine aurait préféré que ce soit François Fillon ou Marine Le Pen, mais ils ont un très bon ambassadeur qui s'appelle Alexandre Orlov à Paris, et ils savent que mathématiquement, il est très improbable que Marine Le Pen devienne présidente de la République française, parce qu'elle est un peu isolée, c'est-à-dire que la droite radicale qu'elle représente n'a pas réussi à faire d'alliance avec la droite classique, et donc on ne voit pas comment elle pourrait gagner, alors que Emmanuel Macron a réussi, les Russes le comprennent très bien, a réussi à fédérer, je dirais, le centre gauche et le centre droit.
Renaud Girard, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier essai, « Quelle diplomatie pour la France ?»« Prendre les réalités telles qu'elles sont », c'est le sous-titre, ouvrage publié aux éditions du Cerf. Un mot de François Fillon, invité ce soir de l'émission politique sur France 2. Le candidat de la droite vient de dénoncer un scandale d'État et il met en cause le président Hollande au sujet des poursuites judiciaires dont il fait l'objet. François Fillon qui demande une enquête sur l'existence ou non d'un cabinet noir à l'Élysée. La météo demain, pluvieuse au sud, surtout près de la Méditerranée, plus de soleil au nord. Il neigera sur les Pyrénées, les températures maximales 11 à 17 degrés du nord au sud, jusqu'à 21 degrés en Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.